c'est vraiment de la partie historique de d'où ça vient.
Donc la partie purement historique, en fait, ça remonte à la fin des années 70. Ça vient d'un gag, ça vient de trois copains auteurs américains qui étaient K.W. Jeter, James Baylock et Tim Powers, qui étaient aussi des copains de Philip K. Dick. On leur avait passé une commande de romans arthuriens, ils ont fait des recherches, ils ont voulu l'intégrer à un univers victorien, ils ont récupéré des vieux documents, ils voulaient vraiment l'intégrer au Londres des bas-fonds, au début de la technologie. Et finalement, la commande a capoté, et ils ont récupéré ce qu'ils avaient écrit et leurs recherches pour faire des romans à eux. Donc le premier roman, ça a été en 79 par Jeter, qui s'appelle Morlock Knight. En fait, c'était une suite plus ou moins directe de La Machine à explorer le temps, c'était le seul à utiliser des morceaux arthuriens, justement, de leur recherche, mais c'était le premier aussi à s'insérer en plein Londres victorien. Donc, on ne l'a pas appelé ça à cette époque tout de suite, parce que ses copains donc, ont continué l'année suivante. Non, c'est en 83 même. Il y a Tim Powers, lui, qui, à partir de ses recherches, a fait Les Voix d'Anubis. James Lovelock, lui, a attendu 86 pour faire son premier roman du genre qui s'appelait Homunculus. Donc, ce n'est pas un genre qui est né tout de suite, c'est un genre qui est né à partir de 79. Et donc, les trois copains, ils ont continué à écrire ça petit à petit. Et disons que cette période-là s'est déroulée entre 79 et 92, si on peut dire. Et les gens ont commencé à s'intéresser à ça, parce que le premier, très peu de succès, mais avec un roman de la qualité des Voix d'Anubis ou d'Homunculus de Blaylock, la critique et le public s'est vraiment intéressé à ça. Et dans une lettre envoyée à la revue Locus, une revue américaine, Jeter a voulu faire un jeu de mots, il a parlé de steampunk en rapport au cyberpunk qui était vraiment à la mode à l'époque. Et donc le steampunk, ça, c'était une espèce de science-fiction matinée de fantasy dont la principale caractéristique, c'était de s'inspirer de tout ce qui était esthétique et technologie de la fin du 19e siècle, notamment de la fameuse ère victorienne, de la révolution industrielle. Alors, ce qu'il faut dire du steampunk, c'est qu'à partir de là, ça a commencé à très très bien marcher. Il y a énormément d'auteurs qui s'y sont intéressés, que ce soit en Amérique, en France ou ailleurs, on en parlera sûrement tout à l'heure. Et le nom est resté, le nom steampunk est resté. Il y a d'autres labels qu'on a voulu associer et qui n'ont pas marché. Par exemple, pour la partie fantastique, on a voulu parler de Gaslight Romance. C'est un terme qui a capoté assez vite. Le steampunk, lui, a perduré. Il a perduré, mais aussi il s'est élargi. Parce qu'au départ, c'était un mouvement purement littéraire qui s'est élargi assez rapidement à la bande dessinée, au cinéma, à la télévision, à l'illustration. Et maintenant, il a tellement tout envahi que maintenant, on le retrouve dans ce qu'on appelle les cosplays, c'est-à-dire des costumes. On le retrouve dans la musique aussi, il y a de la musique steampunk. Il a vraiment envahi tous les genres. Et maintenant, il est devenu tellement universel qu'on le retrouve dans la publicité, par exemple. On le retrouve dans un peu partout. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il n'y a pas un type d'amateur de steampunk. Je vais citer une anecdote. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis inscrit à un groupe Facebook qui s'appelle French Steampunk. Moi, pour moi, ce qui m'intéresse dans le steampunk, c'est plutôt la littérature, le cinéma, la BD. Et finalement, dans ce groupe, il y a très 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 peu de messages qui concernent mes centres d'intérêt. Eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt les illustrations, la musique, donc les costumes, les objets d'art, enfin les objets d'art, surtout ce qu'on appelle ce qui est fait par soi-même, c'est-à-dire les from scratch aussi. C'est des objets à partir d'éléments de tous les jours. On va faire des espèces d'objets steampunk, on va leur ajouter des rouages, on va leur ajouter du faux cuivre. Et il y a un énorme mouvement qu'on peut appeler artistique, justement, qui vise à faire des costumes steampunk, des objets steampunk, des armes steampunk. Et c'est vraiment très, très à la mode. Et donc, on a annoncé la fin du steampunk déjà au début des années 2000, mais c'est un genre qui se porte très, très bien, même si sa définition s'est largement élargie. Par exemple, pour ne citer que les œuvres de fiction, au départ, on associait ça surtout à la science-fiction, même s'il y avait eu notamment de la fantasy avec Tim Powers. Mais maintenant, ça a tout envahi. Dans les œuvres steampunk, on peut très bien trouver de la science-fiction, de la fantasy, même du merveilleux, parce qu'il y a les effets, tout ce qui est corrigant qui sont venus se greffer dessus. On en trouve donc dans le polar, même des œuvres de ce qu'on appelle des woodenites ou des crimes impossibles. Il y a encore Fabien Clavel qui a fait un exemple là-dessus. Donc on trouve vraiment partout, même aussi dans les romans sentimentaux. En Amérique, il y a différentes séries de romans sentimentaux steampunk. On trouve des vampires steampunk, on trouve vraiment de tout steampunk.
Alors, merci beaucoup Marc, c'est super panorama. J'ajouterais qu'en France, Étienne Barillet, que l'on connaît ici, et Arthur Morgan, Donc le tour de la Bible française du steampunk sur le steampunk mondial. On fait beaucoup aussi pour implanter le steampunk, mais tu l'as dit tout d'abord, c'est une esthétique, et c'est une esthétique qui suppose que le progrès est arrivé plus tôt, au 19e siècle, comme si le futur, d'une certaine manière, était arrivé plus tôt. Le steampunk, d'une certaine manière, c'est le passé qui prévoit tout de suite le futur. Et cette ingénierie, cette machine, Didier, bien avant qu'il y ait la mode steampunk, ça on a testé, tu l'as illustré, en revenant aux sources, notamment avec Jules Verne. Et qu'est-ce qui, en tant que peintre, et ou même à cause d'autre chose, d'autre goût de ta part, peut t'intéresser dans le steampunk?
Oui, bonjour. Alors moi, ce qui m'avait intéressé à la base, c'était le voyage avec Jules Verne. Donc j'avais illustré 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse, édition Grund. Bon, les bouquins ne sont plus édités.
Ah, si vous le trouvez, le 20 milieux sous les mers, il est magnifique. Hein.
Donc c'était vraiment le voyage à bord de machines extraordinaires. Et puis, pour un artiste, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est matériaux et matières. J'ai toujours aimé peindre tout ce qui avait, tout ce qui se rapprochait du métal, en fait. Je faisais déjà ça pour la fantaisie, avec les armures et choses comme ça. Et c'est vrai que dans le steampunk, on a des couleurs plus cuivrées. Et je trouve que c'est vraiment une spécificité du steampunk et du côté artistique du steampunk, c'est les matériaux et les matériaux relativement nobles, on va dire, métal, cuivre, bronze même, enfin voilà, tout ce qui va faire partie de cet univers-là, c'est aussi ce côté esthétique très prononcé et très un peu classe, quoi. C'est pas du plastique, hein, on est bien dans ça, et du coup, donc ça peut être très très lourd. Aussi à mettre en œuvre les rouages, les choses comme ça, ça peut être très lourd. Par contre, ça peut être d'un point de vue esthétique, ça peut être allégé par des fioritures, enfin voilà, des choses. Donc ça permet vraiment une palette de création qui est assez large, je trouve.
Et puis je suppose que nous on l'a vu ensemble avec l'album Steampunk, ça permet aussi à travers les machines de représenter des villes, des lieux, c'est-à-dire que la machine elle-même, elle enjambe toute une société à travers tes toiles.
Oui, alors moi c'est un peu la déformation que j'ai par rapport à ça. Moi je fais très peu de personnages steampunk, enfin, je fais surtout des vaisseaux, parce que ça me... Enfin, toujours le moyen de transport dans des univers un peu labyrinthiques ou des choses comme ça. Et ça je pense aussi que c'est un peu ma vision du monde qui est assez contemplative. Et aussi par rapport aux illustrations qui ont été faites pour Jules Verne avec Rioux et Denevive, enfin, à l'époque, de petits personnages qui découvrent ce qui les entoure. J'aime bien ce rapport à l'homme qui est un personnage qui découvre son monde et qui crée aussi des machines pour pouvoir le découvrir. Et qui, après, il y a toute l'extension possible des machines qui peuvent être asservissantes aussi. À Robur le Conquérant, le Maître du Monde, enfin voilà, ça commence bien, c'est un scientifique qui va découvrir des choses et petit à petit on part vers la mégalomanie du personnage qui devient, qui veut conquérir tout grâce à sa machine. Voilà.
Alors Francis, Didier, il évoque justement Robur et les ancêtres. Toi, tu étais une connaissance encyclopédique des genres qui nous intéressent. Et moi, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu lis, est-ce que tu aimes le steampunk? Et la deuxième question, d'après toi, à quoi ça renvoie dans la tradition Jules Verne, Wells, les Américains des années 20, je ne sais pas. Donc, deux questions. Est-ce que tu ressens le besoin de lire du steampunk? Est-ce que tu trouves des choses intéressantes avec connaissance que tu as du genre? Et si tu lis les deux, d'après toi, ça évoque quoi dans l'histoire des genres?
Bien, pour commencer, je lis effectivement le steampunk. Je trouve que c'est un genre rafraîchissant et régénérateur. Enfin, bon, ouais, j'ai dû louper une syllabe, mais vous m'avez compris. En réalité, on va aller très très vite et dire que les genres littéraires sont issus d'un tronc commun. quel qu'il soit, c'est celui de la littérature. Et ils sont définis à partir du moment où un certain corpus existe. On ne peut pas définir un genre en imaginant. C'est quand on se rend compte qu'un certain nombre de publications ont déjà été faites que l'on va nommer ce genre de publication. Alors bon, ce qu'on connaît bien, le western, le policier, l'aventure sentimentale, ainsi de suite, sont des évolutions littéraires qui ont été nommées après qu'on se soit rendu compte que ces thèmes existaient et qu'ils avaient une valeur marchande. Le steampunk, c'est la même chose. On s'est rendu compte à un certain moment que cette esthétique nouvelle allait porter ce nom, et on s'est mis à rechercher dans le passé ce qui pouvait ressembler et ce qui pouvait avoir été aux origines de ce genre, même si les auteurs qui ont produit ces histoires ne le réalisaient pas. Et on s'est vite rendu compte que l'origine, finalement, c'était quelque part presque l'origine de la science-fiction, c'est-à-dire c'est Jules Verne. Jules Verne est plus un corps peut-être que Jules Verne, c'est l'illustration des volumes Hetzel, des fameux cartonnages Hetzel qui étaient très, très significatifs. Et le steampunk on a fait remonter l'origine du genre jusqu'à cette période, et finalement, on a développé une science-fiction ancienne qui correspond à celle que les auteurs frénétiques de l'époque de Jules Verne, c'est-à-dire aux alentours de 1850, un peu plus tard, 1870, s'étaient mis à produire de la science-fiction extrêmement rapidement et en quantité, ils auraient développé ce genre-là. C'est-à-dire une science-fiction qui ignore beaucoup de choses. C'est l'époque du balbutiement de la technologie. Le chemin de fer est apparu grosso modo dans les années 1850, il a été généralisé, il est apparu en Angleterre, puis il s'est répandu aux États-Unis, un peu sur le continent. Les progrès aéroportiers se sont faits, mais par exemple l'aviation n'existe pas encore. Donc un auteur de science-fiction de cette époque-là va développer, au-delà des voyages imaginaires de Jules Verne, toute une esthétique basée sur ses connaissances, c'est-à-dire la vapeur, le cuivre. On peut même dire, en poussant les choses, que la couleur du steampunk, c'est le cuivre, c'est le doré, alors que la couleur de la science-fiction, c'est le blanc, c'est l'argenté, c'est l'acier. Quand on a du cuivre, on a du laiton, on se dirige vers un monde de science-fiction parce que c'est un monde, finalement, pas aussi raffiné que celui de la science-fiction. Mais les thèmes, par contre, vont être les mêmes. Ça sera le voyage dans l'espace, ainsi de suite. Et là, on a toute liberté, parce qu'on a fait table rase de tout ce futur qui est apparu après Jules Verne. On est revenu à 1865. Les grands romans de Jules Verne, c'est autour de 1860 et 1880. C'est la fin de la guerre de sécession. C'est la fin de l'Empire français de Napoléon III. C'est cette période-là. Et avec les données de l'époque, on développe un imaginaire extraordinaire, c'est le steampunk. Donc on va pouvoir voyager dans l'espace, dans le temps, on va fréquenter tout ce que la science-fiction moderne fréquente aujourd'hui encore, c'est-à-dire les mondes fantastiques, les mondes parallèles. Et bien entendu, tout cela va se développer, ce qui fait qu'on assiste à ce foisonnement actuel. Il faut bien justifier ce que la vapeur ne peut pas alimenter. Voyager dans l'espace avec des machines à vapeur, c'est assez peu réaliste. Donc on va inventer autre chose. Et c'est le fameux éther qui maintenant est omniprésent dans la littérature de science-fiction. C'est un élément supplémentaire qui permet d'amener une autre énergie. Parce que dans le monde steampunk, et je vais arrêter là parce que sinon je serai beaucoup trop bavard, le pétrole n'existe pas. Et l'énergie abondante, performante et peu coûteuse n'existe pas. On est resté à une énergie gigantesque, celle de la machine à vapeur. Donc il y a ce développement, mais qui ne peut pas aller au-delà. Donc les auteurs imaginatifs, comme on les connaît, ont inventé cette magie du futur, de notre futur, qui est l'éther.
Alors, c'est vrai, Francis, que non seulement de Jules Verne, le steampunk hérite la machinerie, mais tu l'as très bien dit, hérite aussi le monde à découvrir, à traverser, l'exploration, tout ça, on retrouve l'aventure la géographie, voilà, la géographie. Et dans le steampunk apparaît comme élément de plus en plus important le récit policier. Le steampunk a parfaitement absorbé le récit policier. Et là, Marc, est-ce que tu aurais en bande dessinée, je pense à Loose, même si c'est pas vraiment steampunk, ça s'y attache quand même fortement. Est-ce que tu as des détails sur des propositions pour le public de lecture de détectives steampunk ou dans un univers steampunk?
Tout ce qui est quand même en BD, détective de l'étrange, ça marche très bien, ça marche aussi bien que steampunk, sauf que c'est, pour la plupart du temps, c'est des genres un peu dissociés. Sauf par exemple, il y a une série qui dure depuis un certain nombre d'années, depuis 2002, qui est toujours en cours, il y a encore 12 tomes, ça s'appelle Les Arcanes de Minuit, ça se passe sur une autre planète. Et ça reprend l'esthétique du steampunk en rajoutant de la fantasy. Et c'est aussi de l'espionnage, c'est du polar, c'est un peu tout en même temps. Donc, mais c'est pas le polar purement procédural tel qu'on le connaît. Mais il y avait effectivement des détectives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que des séries purement détectives de l'étrange, il y a des séries comme Aspic qui sont vraiment extrêmement bien, mais qui n'utilisent pas le plus souvent l'esthétique steampunk. J'ai regardé ma liste, mais...
Il y a des Sherlock Holmes en steampunk, comme...
Ça, c'est plutôt les comics, effectivement. Les Français, les Belges ne font pas tellement du polar steampunk. Par contre, il y en a pas mal au niveau comics. Notamment, je crois que j'ai passé une couverture dans tout le lot, il y a des Sherlock Holmes à vapeur. Il y a un Steam Sherlock, je crois, qui existe, effectivement. Mais souvent, il y a peu de détectives purement steampunk, réellement. Souvent, c'est un mélange, le polar n'intervient que dans une petite partie. Mais là, par contre, en littérature, là, aujourd'hui, normalement, il y a Fabien Clavel qui lui a signé une feuillette de cuivre et qui est un pur polar steampunk et qui utilise notamment l'éther dont vient parler Francis.
Il y a quand même quelques Sherlock Holmes en littérature. Je me permets d'insister parce qu'on espère en traduire certains. Il y a par exemple Sherlock Holmes War of the World ou de Wellman, où les Martiens attaquent et donc il y a Sherlock Holmes et Challenger qui assistent en direct à l'attaque des Martiens. Moriarty intervient dans des polars steampunk, notamment The Second War of the World, où c'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes qui permet la deuxième invasion des Martiens. Et alors, je pensais aussi, je crois que Didier, ça te tient à cœur. Dans les détectives steampunk avant le steampunk, il y a eu aussi la télévision, et par exemple les Mystères de l'Ouest, qui est une pépinière imaginaire.
Oui, c'est vrai que le steampunk s'inscrit aussi beaucoup dans le Far West, enfin, après l'après-guerre de sécession, effectivement. Bon, il y a aussi toute l'histoire des sous-marins, je pense à ça, parce que la guerre de sécession, là on voit des trucs arriver qui sont des espèces de tubes avec des gars qui pédalent dedans comme ça. Et puis des sous-marins hyper fortifiés, qui sont même pas des sous-marins, des trucs qui flottent comme ça. Là, il y a l'esthétique, effectivement, tout ce qui est fioritures qu'on trouve sur le métal, bien travaillé, les caisses enregistreuses, des choses comme ça. Donc voilà.
Alors, il y a aussi, c'est une question que j'aimerais poser à Francis et Marc. J'ai pas l'impression, mais je me trompe peut-être, j'ai pas l'impression que l'univers pourtant si riche en géographie et en machines d'Edgar Rice Burroughs a été décliné en steampunk. Alors ça a probablement été fait, mais c'est pas massif. Il n'y a pas de machine qui forge jusqu'au centre de la Terre ou tout.
C'est-à-dire que dans l'œuvre même de Burroughs, la machine intervient assez peu. Quand John Carter va sur Mars, c'est onirique, c'est-à-dire il se sépare de son corps et se matérialise sur la planète. Quand on descend dans Pellucidar, on le fait à bord d'un dirigeable, mais c'est juste un moyen, c'est pas vraiment autre chose. C'est le centre de les fameuses théories de la Terre creuse. Alors après, effectivement, on pourrait peut-être rattacher cet univers, puisqu'il y a cette apparition d'un dirigeable qui est une des mamelles du steampunk, le dirigeable. Si je peux envisager cette image outrée. Mais on imagine très bien. Donc on pourrait parfaitement développer des histoires steampunk à partir de l'univers de Burroughs, qui est quand même assez riche. Quand on se rend sur Mars, oui, les machines martiennes pourraient être déclinées à la mode steampunk, puisqu'il y a des vaisseaux flottants qui ont des ailes, en fait c'est du plus lourd que l'air, mais qui flotte quand même, donc l'éther pourrait intervenir, ainsi de suite. Ça n'a pas encore été fait. Mais pour moi, nous ne sommes qu'au début de l'ère steampunk, parce que le pouvoir de l'imagination à la disposition des auteurs est encore gigantesque. C'est la reconstruction d'un univers, puisqu'on a fait table rase de tout ce qui s'était passé depuis 1870, disons. Donc, à partir de là, on peut imaginer tous les futurs que l'on veut, et on peut réécrire Tarzan, on peut réécrire les aventures de Burroughs avec une orientation steampunk. C'est parfaitement possible.
Oui. Il y a quand même un bel exemple au cinéma, enfin bel c'est beaucoup dire, c'est le film Centre-Terre, Septième Continent des années 70 de Kevin Connor, où il y a une très belle taupe mécanique, même si le film est un peu raté sur certains plans, notamment les effets spéciaux, notamment avec les dinosaures et les ptérodactyles. Sinon c'est un film très sympathique avec une belle taupe et un Peter Cushing qui joue les savants un peu excentrique.
Hors sujet, il y avait le Sixième Continent qui était un très
Continent oublié, Sixième Continent, les sept cités d'Atlantis.
Et qui a quand même une tonalité steampunk. Enfin, les gens qui aiment le steampunk s'y retrouvent et les aiment, ces films. Oui, tout à fait. Et toi, par exemple, Didier, quand tu travailles, quand tu veux mettre au point une toile, une illustration steampunk, très concrètement, comment tu fais? Il n'y a rien, tu as ta... Tout est à faire. Comment tu démarres? Qu'est-ce que tu vas rassembler comme matériaux, photographies? Quelles sont tes sources? Est-ce que c'est l'ivresse? Est-ce que c'est le cinéma? Le processus.
Je pense que c'est. Enfin, j'évite de. Je laisse mon imagination travailler, on va dire. Le livre, oui, effectivement, ça m'inspire de toute façon. Mais c'est. Je vais pas illustrer un livre. Je vais le digérer et puis après, ça va ressortir d'une certaine manière. Le travail photo, c'est vrai qu'à Paris, je photographie tout plein de monuments. L'idée, c'est en fait de transposer ces monuments et d'en faire autre chose, de me servir vraiment de ce qui m'intéresse et pas forcément de tout le monument. Je vais le déstructurer un peu, je vais en faire autre chose. Qui est toujours cette notion de déplacement dans les rues, avec ces choses qui flottent. Par les dirigeables, effectivement, qui sont plus lourds que l'air aussi. Parce que le dirigeable, le zeppelin complètement toilé, finalement, c'est pas assez steampunk. Quelque part, ça manque de matériaux un peu plus lourds. Et donc, on va rajouter des chaudières et des cheminées, des choses comme ça. J'aime bien aussi la transition, finalement, 18-19e. C'est-à-dire que je vais me servir aussi de nacelles qui vont être des anciens bateaux 18e qui vont être réadaptés sur des ballons. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un univers steampunk pur, je vais prendre un peu ce qui s'est fait avant dans l'histoire et je vais le réadapter. Par exemple, prendre un galion, un vaisseau 18e, et puis notamment, on parle de l'ère victorienne, mais c'est très anglais, donc il y a aussi tout ce qui est la marine, enfin il y a tout ça, tout ce qui va avec, marine française ou anglaise. Et puis prendre un bateau, rajouter par-dessus une chaudière de locomotive, enfin de motrice, quoi. Et puis ça va faire le moteur et puis dessus un dirigeable, quoi. Donc du coup ça mélange des éléments qui peuvent être intéressants. Voilà, c'est chaque image que je vais faire va avoir une esthétique différente, enfin j'espère. Mais bon, il y a quand même, j'aime bien l'idée aussi du départ, du ponton, des choses qui amènent au voyage. Comme si on allait embarquer vers ces appareils-là. Après, le plus dur, c'est d'illustrer ça par le texte, ce qu'a fait Xavier dans le dernier livre, de trouver une idée à chaque fois un peu différente. Et puis bon, c'est vrai que je m'inspire de villes différentes, vers Paris, New York, Pékin, enfin voilà. L'intérêt, c'est que selon le pays, on va avoir une esthétique peut-être différente à chaque fois du steampunk. C'est-à-dire qu'on va adapter. Je ne sais pas pour l'image sur Pékin, il y a une espèce de navire chinois avec des grandes voiles c'est une espèce d'osier, enfin voilà, et de lin, quoi. Mais on va quand même rajouter des éléments, des moteurs, mais qui vont être dans l'esthétique chinoise et pas forcément l'esthétique victorienne. c'est-à-dire rajouter des moteurs en forme de dragon, choses comme ça. Donc c'est du steampunk, entre guillemets, étendu à la civilisation qui m'intéresse. Quoi.
Du steampunk ethnique.
Oui, c'est ça, oui, mais on peut tout se permettre. Quoi. Mais on reprend toujours, de toute façon, l'idée de la vapeur qui est là. Après, moi, je l'étends, effectivement, peut-être aussi sur une période. J'aime bien aussi tout ce qui est années 40, 50. Donc là, on est même 30, 40, 50. On est beaucoup plus loin. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir... Alors, le steampunk, c'est très brut. Il y a les moteurs, il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de fioritures, mais il n'y a pas de carénage sur les choses. On voit vraiment les éléments de moteur comme ça. Alors que si on étend sur des dizaines d'années après, une espèce d'extension qui n'est plus du steampunk, mais qui est un espèce de nouveau futur étendu, on peut rajouter des carrosseries, des choses comme ça, propres aux années 40. Là, j'ai fait une image, par exemple, sur une Airstream, qui est une voiture Airstream. Quoi. Alors moi, j'aime bien la caravane Airstream. À la base, c'est une caravane complètement chromée. Donc c'est très très beau, esthétiquement. Enfin, je trouve que c'est surprenant, tout rifté. J'en ai fait une voiture. Donc c'est une voiture Airstream, c'est-à-dire qu'elle est aussi argentée, mais du coup, on dépasse le steampunk, on est plus dans une espèce d'extension. Voilà. À partir du 19e, le steampunk est apparu, enfin, l'ère de la vapeur, et petit à petit elle s'est étendue. Et on arrive à d'autres véhicules qui sont des véhicules des années 40, mais qui ont subi l'influence du steampunk.
On a parlé beaucoup de machinerie, de décors, etc. Mais j'ai l'impression aussi que après plusieurs décennies de ce qu'on appelait le postmodernisme, qui était des relectures au second degré, un brin cynique, etc. Très bien, hein, il y avait de très bonnes choses, mais qu'il y avait du recul, de la distance. J'ai l'impression que dans le recyclage, la remodification d'éléments, il y a aussi des personnages. Je trouve que le steampunk est très tranquille à l'idée de réutiliser des héros braves, courageux, avec de vraies aventures qu'il y avait qu'il y a peut-être toujours eu dans la fantasy, mais qu'il y avait un peu perdu dans la science-fiction. Et puis alors, la belle qu'on doit protéger, qui est plus futée qu'avant, mais il y a le rôle de la belle, et il y a le rôle du méchant aussi, et le retour des professeurs, des savants fous. Et ça, je trouve que c'est aussi une nouveauté de s'être réapproprié tout un pan de l'aventure qui avait été un peu moqué ou intellectualisé pendant 20 ans.
Oui, c'est vrai. Mais ça vient du fait que le steampunk est admiratif de l'ère victorienne. Donc c'est une période relativement courte, finalement, mais qui a beaucoup marqué les imaginations et qui correspond à tout un tas de développements modernes. En particulier, c'est l'époque du colonialisme triomphant. Et la littérature anglaise, typiquement, va générer une quantité invraisemblable d'aventuriers. Ryder Haggard, les personnages de Ryder Haggard sont les archétypes de ces aventuriers-là. Et le steampunk va s'en emparer. Il va s'emparer d'un certain nombre de personnages qui existent déjà. On a évoqué Sherlock Holmes, bon, la reine Victoria, qui est pratiquement dans tous les romans. C'est un personnage très très important. On imagine même qu'on a pu lui la faire vivre beaucoup plus longtemps que ses années réelles. La technologie steampunk, la vapeur, va prolonger même son règne. Mais toute cette esthétique va être prolongée dans le même temps. Et comme je disais tout à l'heure, on a évacué toute l'histoire réelle, mais il n'en reste pas quand même que l'histoire dans le steampunk va évoluer. Donc les machines que Didier imagine, les machines des années 40, c'est du steampunk, oui, mais qui subit aussi une évolution technologique. Donc la base, effectivement, a sa racine en 1860 ou 70, mais après, le monde avance. Et il faut réécrire toutes les histoires que nous avons déjà lues. Et nous avons besoin pour cela de nouveaux personnages. Et tous ces aventuriers, tous ces gens, alors qui, normalement, auraient dû se rendre en Afrique, auraient dû avoir une mentalité colonialiste, ainsi de suite, ils sont retraités avec notre recul. Donc on en fait autre chose. Et puis il y a aussi tous ces personnages qui sont tellement fixés dans notre monde qu'ils en deviennent des canons. On ne peut pas les mettre à toutes les sauces. On évoquait Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes est un individu, est-il irréel, je n'en sais rien, mais qui refuse le fantastique, qui refuse ce qui n'est pas concret. Donc les auteurs d'aujourd'hui qui écrivent des histoires policières dans un monde de steampunk ont du mal à utiliser Sherlock Holmes, parce que ce n'est pas un personnage suffisamment souple pour s'adapter à toute cette évolution science-fictive ou fantastique. Donc on a besoin d'autres héros. Les Anglais, George Mann et compagnie, ont développé tout un tas de nouveaux personnages qui sont fascinants parce qu'eux ne rejettent pas l'extraordinaire comme Sherlock Holmes le fait. Sherlock Holmes apparaît dans leurs livres, Spirit Box, les bouquins de George Mann qui ont pour héros où Sherlock Holmes apparaît, sont dans ce monde-là, parce que même dans le monde de steampunk, Sherlock Holmes existe. Mais il n'est pas l'un des acteurs principaux. Il nous faut d'autres personnages. D'où la prolifération de ces aventuriers au grand cœur, et puis aussi l'importance féminine. Et qui est d'autant plus amusante que c'est une époque où la femme est corsetée. Et malgré cela, eh bien, on a des personnages qui sont fascinants, des personnages féminins qui apparaissent avec un intérêt extraordinaire.
Il y a aussi une raison plus éditoriale, c'est que pendant longtemps, le steampunk a été destiné à un public adulte. Par exemple, tous les noms que je vous ai cités tout à l'heure, les Jitters, les Powers, tout ça, ça passait à des adultes. Ça a été un genre très longtemps référentiel, donc il fallait un public assez mature pour l'apprécier. En France, ça a été pareil. On a eu toute une génération à partir de, disons, de 97, les Mauméjean, les Calvo, les Colin, les Gaborit, tout cela s'adressait à un public adulte. Et depuis quelques années, disons depuis le début des années 2000, voire 2010, on s'adresse maintenant plus à un public de la jeunesse, qu'on appelle soit des jeunes adultes, soit des adolescents. Alors pour les Américains, c'est des gens comme Ian Colfer, Guinness Apple, Gail Carriger ou autres. Et en France, on a aussi toute une série d'auteurs comme Stéphane Tamayon, Jean-Luc Marcastel, qui s'adressent à des jeunes. Donc on essaie de faire moins compliqué, peut-être moins référentiel, du moins des références plus aisées à comprendre. Et évidemment, on recourt maintenant à des héros plus classiques. Et des héroïnes plus classiques aussi.
Francis évoquait Ritter Haggard, il y a un film, un projet de film autour de nouveau de Alan Quatermain avec l'acteur, alors je ne connais pas son nom, qui fait Thor dans les Avengers, qui reprendrait le rôle d'Alan Quatermain.
On ne peut pas dire que physiquement correspond très bien, alors que Alan Quatermain était un petit gars, je crois pas très grand, en plus tout sec, avec un physique pas franchement impressionnant. Et à chaque fois, on lui attribuait des dégâts au physique, au contraire, des beaux gabarits comme Stuart Granger ou Richard Chamberlain. Donc, ça paraît un peu bizarre. Surtout que Hemsworth doit faire 1m92, c'est une vraie barrage. Ça, c'est Hollywood.
Alors, question plus générale, même si on reste ancré dans le steampunk, comment ça se fait que la science-fiction, disons classique, en tout cas l'une des finalités de la science-fiction qui était l'anticipation, donc de se tourner vers le futur, paraît en perte de vitesse, sauf peut-être dans la littérature jeunesse, mais le futur est dyschronique, il est noir, donc il n'invite pas à rêver. Comment se fait-il qu'il y ait cette espèce de retour massif vers un passé réinventé, un passé de l'image, un passé que l'on peut voir, que l'on peut lire, que l'on peut regarder à la télévision? Comment ça se fait qu'en une période si courte, il y a cette espèce de rétroaction vers le passé? Didier, par exemple, en tant qu'illustrateur, qu'est-ce qui plaît
Moi, je pense, enfin, pour ça, c'est mon point de vue, mais que l'avenir étant sombre, on se rassure en regardant un petit peu derrière, donc on recrée des histoires. Voilà. Et moi, je suis né en 70, donc j'ai vu la science-fiction évoluer, c'est pareil. Dans les années 50, les Américains voyaient des fusées bien chromées, des trucs nickel, tout était propre. Quand Alien est arrivé, l'Alien de Ridley Scott, c'est devenu assez sale, quoi. Et petit à petit, ça a évolué comme ça vers une science-fiction qui esthétiquement est pas très propre, et puis avec un avenir qui est relativement sombre, je pense. Mais donc voilà, alors je pense qu'il y a du coup on regarde le passé avec un peu de nostalgie de tête, et du coup on se le réapproprie, c'est une manière de se rassurer, que ce soit aussi bien au niveau de l'écriture. Bon, c'est vrai qu'un écrivain, je pense, quand il a toute la matière pour écrire, tout ce qui est décor, voilà, univers, ambiance, tout ça, c'est plus facile. La science-fiction, c'est quelque chose qui doit anticiper. C'est vrai que je pense que la visibilité est quand même moindre aujourd'hui. On parle beaucoup de Mars maintenant, parce que c'est un espèce d'objectif comme ça. On parle d'aller sur Mars, il y a tout ce qui a été écrit là-dessus, seul sur Mars et compagnie. Mais là, c'est très scientifique, donc finalement, ça arrivera un jour. Ça arrivera. Par contre, philosopher sur l'avenir, c'est quand même assez sombre, quoi. Je le vois comme ça. Et alors, c'est vrai qu'aussi, pour un graphiste ou un illustrateur, illustrer le futur, c'est vachement compliqué. Parce que ça évolue tout le temps. Les tendances évoluent en permanence. Il y a eu une période, il y a quelques années, où tous les vaisseaux ressemblaient à des gros flingues, quoi, des trucs rectangulaires. Voilà, c'est encore cette tendance-là actuellement. Et puis ça évolue en fonction du design. Bon, je sais que la NASA, les gens de la NASA, j'en connais quelques-uns qui travaillent vraiment avec des designers et des gars qui font de la SF comme Manchu. Ils regardent ce qui est fait au niveau illustratif et ils s'en inspirent. Hein. C'est des grands enfants, en fait, c'est des grosses têtes. Par contre, ils sont fans de Blade Runner et de choses comme ça, de films, de littérature. Et ça influe dans les deux sens, et ça qui est étonnant. On peut croire que ce sont des gars qui sont partis dans leur univers comme ça, très, très mateux et tout ça, et en fait ils sont très très influencés par tout ce qui est fait en imaginaire de la science-fiction, esthétique.
Je pense globalement la même chose. Je crois que notre avenir est vu comme très sombre actuellement, et nous avons besoin de cette lumière qu'il y a dans le steampunk, ces couleurs douces, chaudes. Mais il y a aussi le fait que l'on peut jouer avec la mentalité de l'époque. D'une part, elle nous fascine, la rigueur victorienne nous fascine. C'est une société que nous ne connaissons plus, qui s'éloigne de plus en plus de nous, de notre façon d'être. À partir de là, elle est intéressante à observer et surtout à déformer. Puisqu'on va introduire des personnages féminins qui n'existaient pas à l'époque. Les suffragettes étaient encore considérées comme des folles, et le rôle féminin était très, très, très délicat. Donc on peut traiter toute cette information d'une façon moderne. La bombe atomique n'existe pas dans le monde de steampunk. Donc il y a quand même un optimisme. Il y a une nature humaine qui peut encore se développer dans les mondes fictifs. Ceci dit, la noirceur arrive aussi parce qu'on commence à voir des livres où une technologie steampunk militaire est développée, même une oppression steampunk. La machine à vapeur va être utilisée non pas pour développer la société, les idées, mais pour oppresser les individus. Il y a des romans qui sont déjà parus en Angleterre, et où effectivement cette technologie, alors qui est souvent originaire d'Allemagne, parce qu'il y a quand même les mythes de l'époque qui sont retravaillés, eh bien va remplacer un peu l'idéologie nazie qui apparaîtra un peu plus tard. Mais cette technologie est donc offensive et déshumanisante. Donc même dans cette littérature très enthousiaste, on commence à percevoir des côtés noirs, y compris dans la littérature pour jeunes, parce que Scott Satterfield a fait une série où la technologie steampunk est quand même... c'est en même temps une libération, elle permet de s'enfuir, mais c'est aussi une oppression. Donc il est probable que dans le futur, cette littérature soit aussi polluée par notre façon de penser.
Alors dans le steampunk noir et français, pour le coup, il y avait aussi, je pense qu'on peut le considérer comme tel, comme steampunk, le film de Caro Gemmell,
c'était des implants perdus qui étaient très bien utilisés. Et je pense que le...
Au niveau esthétique.
Oui, voilà. Et je pense que, en effet, l'imaginaire proprement français qui n'a pas encore été utilisé pour le steampunk qui est très riche. Moi, je rêve d'un récit steampunk policier, enfin ce brassage des genres, où on utiliserait l'homme qui rit de Victor Hugo en Joker. Enfin, ce serait un personnage fascinant. Il y a des pamphlets, on peut imaginer la commune, Jules Vallès, enfin, c'est d'une richesse, il y a de quoi faire en steampunk. Et, Marc, justement, comment ça se fait que sous l'effet des camarades Barillet et Morgan, la France tout à coup s'est enflammée pour ce que tu disais, la surface des choses, l'imaginaire, le vêtement, etc. Qu'est-ce qui fait que des jeunes qui sont jeunes peuvent ne retenir que ce côté passé, passéiste et se plaire en communauté comme ça actuellement? Je crois que tu disais, ils lisent pas. Enfin, c'est ce que tu
as. A priori, il y en a très peu qui lisent. Enfin, qui lisent ce qu'on lit, notamment la littérature purement steampunk. Finalement, c'est les communautés qui effectivement aiment bien se retrouver dans les conventions. Ils se retrouvent toujours costumés. Donc, on est effectivement, dans une civilisation de l'image. Donc, c'est l'apparence qui compte. Et cette apparence, ils aiment bien la faire un peu originale. Donc, il y a les gothiques qui s'habillent d'une certaine façon, et les steampunk, les vaporistes, comme on dit, s'habillent d'une autre façon. C'est une mode comme une autre, finalement. Mais c'est toujours la référence et la fascination vers le passé, notamment de ce qui correspond chronologiquement à l'ère victorienne. C'est toujours lié à ça, finalement. Et c'est vrai que cette communauté n'a pas l'air attirée, du moins, par tout ce qui est cinéma et littérature, etc. Au moins que nous. Hein.
Et de l'autre côté, même si on reste vraiment à la toute limite de la discussion. Par exemple, une série comme Sherlock, qui n'a évidemment rien de steampunk, ressent ce même besoin d'aller puiser dans le passé des éléments forts pour les intégrer dans le présent. Et donc ça ferait que confirmer ce que vous dites, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'élan, c'est vers le passé en ce moment, quitte à le faire revenir dans le présent avec Sherlock. Et je tiens à préciser au public qu'on n'a pas encore prononcé une seule fois le mot uchronie. Hein. C'est très, très fort.
Au départ, effectivement, le steampunk était lié à l'Uchronie, et maintenant, elle s'en libère de...
Voilà.
Mais c'est libéré de la science-fiction, d'ailleurs, comme beaucoup de choses.
Oui. Alors, Francis, qu'est-ce que si tu devais faire un best-of, soit en livre steampunk qui t'ont plu, soit en référence, les anciens, qui éclairaient sur le steampunk, qu'est-ce que tu proposerais à quelqu'un qui ne connaît pas?
C'est une question qui me prend un peu de cours. Je n'y avais pas pensé. Je vais m'échapper, je ne vais pas y répondre. Je vais dire qu'il faut lire le Château des Étoiles avec Salis. Parce que c'est une autre voie. C'est un steampunk moderne et qui justement se débarrasse de l'ère victorienne. Et qui utilise un thème européen assez rare, finalement. C'est-à-dire, c'est Louis de Bavière. C'est la période allemande, mais avant la période allemande, la Germanie, c'est-à-dire toutes les principautés indépendantes. Et cette esthétique, l'esthétique de Louis de Bavière, c'est aussi une esthétique steampunk. Et le vaisseau qui a été développé, l'utilisation de l'éther, la volonté d'aller dans l'espace... Mais c'est une vision toujours très moderne du steampunk, et c'est une œuvre très réussie. Esthétiquement, elle correspond parfaitement au cahier des charges, et en plus, il y a un souffle un souffle humaniste très très fort, une intrigue, et c'est un peu un symbole de ce que je considère être du bon steampunk. Ensuite, j'aime beaucoup l'auteur britannique George Mann. J'aime Mark Hodder, j'aime ce mélange donc de l'aventure policière, ces succès d'années à Sherlock Holmes, et qui permettent de voyager dans un monde qui est vraiment là, très très efficace, et assez réaliste, parce que, on a parlé de vapeur, mais la vapeur, ça sous-entend le charbon, ça sous-entend la pollution, ça sous-entend Londres
où il est très difficile de respirer, les gens sont malades, ils ne voient pas au-delà, il y a le brouillard de la Tamise, mais en plus il y a la pollution du charbon. Et c'est aussi ça le steampunk. C'est pas que le soleil qui joue sur les rivets cuivrés des dirigeables. C'est un monde très très lourd. Et ces livres-là nous le montrent bien. Il y a aussi tout l'aspect industriel. Parce que, dans la littérature, on parle rarement de l'industrie. Les machines, les vaisseaux existent, mais ils ne sont pas fabriqués. Dans ces livres-là, on a des visites dans les usines. Et on se rend compte que bah oui, tout ce qui brille en surface, bah, c'est très sombre dans les ateliers. Le charbon, la forge, parce que c'est une technologie ancienne. Donc la forge est difficile. Les gens brûlent leur santé au contact des métaux en fusion. Et on a justement cette fusion d'un univers fantastique, rêvé, aérien, les dirigeables, et puis la façon de produire cette esthétique, c'est-à-dire l'industrie lourde, l'industrie peu performante, dévoreuse d'individus, d'énergie, et qui détruit aussi son univers. C'est pour ça que je pense qu'on a encore de bonnes choses à voir dans le steampunk, parce que tout ça, ça va finir par être exploité. Et il y a déjà d'ailleurs des livres qui se situe entièrement dans des zones ravagées par l'industrie victorienne fictive.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc on a surtout parlé de Londres et de l'ère victorienne, mais le steampunk peut aussi s'adapter à d'autres pays, notamment c'est le cas du steampunk en France, où par exemple un auteur comme Johan Eliot a très bien illustré un steampunk façon Second Empire, ou plus tard, la Belle Époque aussi, notamment le Paris de la Belle Époque a été illustré, lui, par Pierre Pével dans Les Enchantements de Robert. Donc il y a pas mal de Français, d'auteurs français, qui ont adapté le steampunk à nos époques, à nous, et à notre esthétique, à nous, si on peut dire.
Hervé Jubert aussi, qui avait créé un très très beau cycle.
La Bibliothèque Noire, notamment.
Oui, puis sa reprise plus tard, chez Pandore. Oui, je ne me rappelle pas le nom.
C'est les aventures de Georges Borgard qui ont été adaptées des années plus tard.
Très beau.
Donc il y a un steampunk à la française.
On adapte
la
steampunk,
ce qui se passe du sein. L'impérial est à exploiter, bien sûr.
Il y a Christian Dillin qui avait fait
déjà
Saint-Pétersbourg.
Il y a Didier qui s'est aventuré dans les steppes avec certaines toiles de trains, de cités aériennes. Soviétique.
Oui, j'ai ça, oui. J'ai les Russes aussi. Je trouve que c'est très lourd. La technologie est lourde. Donc, du coup, ça va bien avec le steampunk. J'ai fait une espèce d'usine russe, un truc énorme qui vole, on ne sait pas trop comment. Ça peut être la gaborie.
Oui, c'est ce qu'on veut.
Et puis récemment, j'ai fait une toile effectivement beaucoup plus sombre. Une espèce de ville en fumée. On sent que c'est verdâtre. Ouais, ce n'est pas des couleurs très sympas. Pour un peintre, ce n'est pas terrible parce qu'on ne vend pas la toile. Donc ça a des couleurs vertes, mais c'est un espèce de vert dégueulasse, quoi, mélangé à de la rouille, et puis c'est noyé dans des espèces de brumes, on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est même pas marron, c'est pas comme en Chine, quoi. C'est un truc un peu méphitique, j'en sais rien. Et voilà. Donc c'est aussi une autre part, effectivement, qui est plus sombre. Ça, je dirais que moi qui suis peintre et qui vend des toiles, je sais que celle-là, soit elle va plaire vraiment à quelqu'un qui est souvent un garçon, qui adore cet univers, mais rarement à son épouse. Donc généralement, j'essaye de varier les deux. C'est vrai que je joue un peu sur le côté esthétique, pour que ce soit beau, joli et tout. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une toile aussi qui soit bien assez monochrome, quoi, quelque chose d'un peu plus dur. On découvre aussi une autre ambiance vraiment particulière.
Sur l'élément féminin, justement, on a oublié tout à l'heure, tu évoquais les personnages forts féminins, mais Marc Geiger, le
protecteur de l'ombre.
Voilà, si tu peux en dire deux mots, parce que ça, pour le public qui ne connaît pas, ça vaut le coup.
Je l'avoue, je ne suis pas un spécialiste effectivement, de cette auteur-là, mais c'est un personnage très fort. Mais effectivement, ça fait partie de la mouvance un peu parallèle à la Beatlit, où on retrouve beaucoup de personnages féminins. Donc Geiger a créé le protectorat de l'ombrelle, c'est une ère victorienne encore une fois revisitée. Il n'y a pas tellement longtemps, elle a fait une série parallèle qui se passe dans un pensionnat aussi, qui dépend de ce même univers. Mais c'est la même mouvance effectivement que toutes ces vidéatures de Beatlit, souvent c'est des plus ou moins sentimentaux, des romans sentimentaux aussi qui récupèrent des personnages très forts, notamment c'est un peu l'équivalent des Anita Blake et autres qu'on retrouve en Beat 8. Donc là on retrouve des personnages très forts qu'on retrouve aussi par exemple dans les polars. Mais j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de Gulf Jarry.
Oui, c'est une série très intéressante parce qu'elle fait à la jonction entre la science-fiction et le fantastique. C'est du steampunk, mais tous les personnages sont hérités de la bit-lit, c'est-à-dire des loups-garous, des vampires, des fantômes, des revenants, ainsi de suite. Et le personnage principal, qui est sans âme, a la particularité d'annuler le pouvoir de toutes ces créatures fantastiques par le simple contact. Et alors, en plus de ça, c'est une série de livres qui est extraordinaire parce qu'elle est pétrie d'humour. C'est très très amusant. C'est une société victorienne vraiment corsetée. Mais l'héroïne a une tache originelle, c'est-à-dire qu'elle est à moitié italienne. Et elle se comporte comme une italienne dans la Londres de la reine Victoria. Donc elle n'est pas du tout convenable. Et elle va finir par épouser le Premier ministre, qui est un loup-garou. Et nous imaginons leurs ébats. Je me trompe. En tout cas, il a un pouvoir extrêmement important. Voilà. Chef des services secrets. Et ils finiront par avoir un enfant, ce qui est impossible. Donc, tous ces thèmes sociaux victoriens sont très très bien utilisés et c'est vraiment très humoristique. La série parallèle, c'est un pensionnat pour jeunes filles qui accueille donc des filles qui sont dans la veine du personnage dont j'ai oublié le nom. Mais alors on y voit tout l'attirail steampunk parce qu'effectivement, bon, curieusement, le pensionnat est aérien. Donc c'est un énorme ballon qui se déplace sur l'Angleterre et qui est un pensionnat de jeunes filles. Alors, ça, c'est pas très crédible, c'est amusant, mais c'est un cran en dessous de la série principale. Lisez Sans âme, vous deviendrez automatiquement fan. L'autre série, vous pouvez vous en passer.
Alors, avec une précision d'horlogerie suisse steampunk, il ne reste 5 minutes avant les questions. Jacques, peut-être ?
Sans compter que le premier volume de Sans âme est un pastiche de Jane Austen.
Oui, oui, bien sûr, tout à fait.
Merci.
Peut-être, Jacques, tu as peut-être d'autres conseils de lecture qui nous seraient échappés ou.
Tim Power, ça doit être Anubis.
Oui, bien sûr. James Blaylock, mon cul, le magnifique savant fou, le professeur Ignacio Narbondo, qui est à la fois bossu et pied beau jusqu'au bout, qui est bien sûr un génie du mal. Voilà, donc 5 minutes en machinerie steampunk suisse. Hein, c'est très bien. Avez-vous des questions ?
Oui, à propos d'ancêtres, et avec une pincée du cul, est-ce qu'il y a des écrivains contemporain de Babbage, qui est écrit avant la lettre est la machine à différence. Et sinon, pourquoi ?
Il y a un pastiche holmésien où, le nom m'échappe là, il y a un pastiche holmésien où Moriarty s'empare de la machine de Babbage et l'améliore.
Vous parlez de romanciers de l'époque ?
Oui, moi je voyais
des
ancêtres.
Les ancêtres, il y a, comme il s'appelle, Edward Page Mitchell, qui avait fait l'homme le plus intelligent du monde, vraiment comme ça, qui avait imaginé un homme dont le cerveau, en fait, serait mécanique. C'est un des tout premiers exemples. Enfin non, c'était pas la machine à vapeur, évidemment. Si ça se logeait dans le cerveau, enfin dans le crâne, mais c'était une des premières mécaniques, un des premiers hommes mécaniques. Mais à l'époque, il n'y a pas eu réellement d'application.
Est-ce que Pavane était un steampunk ?
C'est ce qu'on appelle le proto-steampunk. C'est-à-dire c'est avant qu'on ait inventé réellement en 87 le terme steampunk. Mais ce n'est pas le seul, il y en a plein. Il y a Harry Harrison, Michael Moorcock avec les aventures chroniques, Los Bastards et Paul, on retrouve plein d'exemples.
Ouais, parce que Pavane, je ne suis pas très convaincu.
Bah, juste au niveau esthétique.
Oui, esthétique, parce qu'il y a des locomotives.
Il y a la machine à vapeur avec la pelle pétrolière Veto, évidemment, on était obligé d'utiliser la vapeur.
Par contre, les Moorcock, oui, il y en a très bien.
Mais la SF a utilisé Babbage aussi.
Mais récemment, enfin, plus récemment. Ouais. Enfin, pas à l'époque.
Pas à l'époque.
Non, non. Mais la fameuse machine, le développement des livres de science-fiction qui prennent en compte cet imaginaire et cette évolution technologique pour la projeter dans le futur. Et donc développer une informatique avant l'informatique moderne. C'est un thème de SF.
Mais récemment, pas.
Juste une toute petite chose. Il y a aussi, enfin on aurait pu tenir l'après-midi hein, avec le thème, mais l'Europe est souvent remodifiée. Par exemple, dans l'univers steampunk, il y a aussi l'influence, par exemple, d'Anthony Hope et de toutes ces micro-royautés middle-européennes, genre la Ruritanie, etc. Souvent, il y a de quantités de pays à la Hope ou à la Pérouse. Donc, on avait écrit aussi à la Pérouse.
Pour le Maghreb, Roi Malgré lui, je crois que c'était.
Oui, voilà.
Ouais. Il y a aussi le royaume de Grostar qui à l'époque était très connu mais qui a disparu. Voilà. Après, c'est la popularité de la Royauté. Mmh.
Bah, c'est ça, quoi. Ce qu'on retrouve dans le Château des Étoiles.
Ah, d'accord.
C'est le royaume de Bavière.
D'accord.
Dans le Château des Étoiles, c'est le royaume de Bavière qui subit des modifications sociales. Et Louis II part faire rêve. C'était le roi fou. Utilise ses moyens pour partir dans les étoiles, et il se projette dans les étoiles. Et c'est à partir donc d'une principauté européenne, je dirais pas ridicule, hein, de conte de fées.
Je me demandais, dans les comics américains, est-ce qu'un personnage, justement, on parlait de micro-états européens, est-ce qu'un personnage comme le Docteur Doom dans les fantastiques
Steampunk?
Ah ben,
moi je pense, oui, qu'il a, à l'époque, bah, disons, dans son temps fort, qui est dans les années 60 surtout, puis 70, lui-même porte une armure, enfin, l'adverie est médiévale et une espèce de d'ingénierie qui semble, du fait qu'il utilise la magie aussi, oui. Il évolue à la fois dans la science et dans la magie, on voit bien que...
par la magie. C'est une expérience de magie qui tourne mal, qui crée le
oui, monde. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, il y a au moins un choix graphique de bien distinguer Red Richards en plein milieu de New York avec une technologie qui est extrêmement moderne et son unique équivalent au monde intellectuel, Von Doom, qui lui a effectivement une sorte de technologie médiévale. Enfin, ces robots ont l'air frus, il y a du boulon.
Oui, oui. Mais il y a une forte influence de Frankenstein.
Oui,
son nom, c'est Victor Von Doom. Victor von Frankenstein. C'est une hybridation déjà.
C'est vrai.
Pas vraiment, à mon sens, parler de steampunk.
Ouais. C'est parce que c'est une ingénierie passéiste quand même chez Von Doom.
Il y a l'origine. L'origine est fantastique puisque c'est un individu qui ne peut pas, qui se compare à Reed Richards, mais qui ne peut pas le dépasser et qui va chercher dans la magie l'élément supplémentaire qui lui permettra de surpasser son concurrent. Il échouera et ce qui le défigurera et qui imposera le port de cette armure. Ensuite, toute la verrie viendra après. C'est quand même plus tardif. On peut rapprocher Von Doom à une culture à la culture des gitans plus qu'à autre chose. Voilà. Et il prendra ensuite le pouvoir en l'adverie par un coup de force. Mais alors c'est un pouvoir, c'est un micro-État hongrois, enfin, bon, de l'Europe de l'Est. Pour ma part, je ne le qualifierais pas de steampunk, d'autant plus que tout l'environnement après sera hyper technologique et sera vraiment de la science-fiction. Il n'y a pas de vapeur, il y a de la technologie, il y a de l'atome, parce que dans les comics Marvel, il n'y a que de l'atome. Tous les pouvoirs ou pratiquement sont issus de l'explosion atomique. Et la technologie de Doom, même si elle n'est pas expliquée, est comparable à la technologie de Reed Richards. Et c'est une technologie de science-fiction, de la belle science-fiction des années 40, 50. Tout est expliqué par cette avancée technologique. Et les robots qui oppressent la population latvérienne, ce sont des robots plastifiés, ils possèdent des armures, mais ce n'est pas l'armure médiévale de Von Doom. C'est une vision très futuriste du robot, souple, quasiment indépendant, et il ne sert en réalité qu'à assurer l'impunité diplomatique à leur maître.
Mais sinon, au niveau super-héros, il y a une adaptation steampunk des X-Men, je crois que j'ai passé la couverture. Il y a aussi une adaptation steampunk des Transformers, dans un autre genre, qui est assez amusante graphiquement. Et toujours, par contre, là, c'était Marvel. Du côté d'ici, il y a eu carrément la série qui s'appelle Elseworlds, qui est un peu l'équivalent de What If, sauf que là, il y a eu pas mal d'albums qui étaient purement steampunk, notamment chez Batman, Batman Magazlight, Gates of Doom, enfin, il y a toute une série comme ça. Il y a aussi des Elseworlds rétro-futuristes, notamment la trilogie écrite par Jean-Marc Lefissier. Enfin, il y a beaucoup d'expériences steampunk et rétro-futuristes dans les Elseworlds de DC, qui sont esthétiquement très intéressantes.
Que pensez-vous du dessin animé le dessin de Tardy?
Personnellement, je n'ai toujours pas vu, mais il y a Jean-Luc Rivera, qui est l'organisateur de ce festival, qui l'a vu il y a quelques jours, il l'a adoré. Et j'ai aussi l'avis d'un ami qui a beaucoup moins aimé. Mais apparemment, c'est très steampunk, esthétiquement, ça vaut vraiment le coup de le voir. Et l'histoire est sympathique.
Ce qui est marrant, c'est que Tardy a été interviewé il n'y a pas très longtemps. Il était extrêmement courtois à l'égard de l'adaptation d'Adèle Blanc-Sec, courtoisie d'un gentleman. Et dès qu'on a commencé à parler de ce film-ci, là, il parlait avec le cœur.
Je voulais aussi, par rapport au steampunk, ce qu'il y a d'intéressant aussi, je pense, de préciser, c'est le rapport qu'on peut faire, et qui nous intéresse nous particulièrement les auteurs d'anticipation ancienne, c'est ce rapport qu'on peut faire entre le steampunk et tout ce courant littéraire qu'il y a eu en France à la fin du 19e et du 20e, puisque en fait, les auteurs de steampunk, ce sont des auteurs récents qui écrivent des histoires du passé, donc qui racontent l'avenir, et en fait, les écrivains d'anticipation ancienne, ce sont des écrivains, des auteurs qui écrivaient des histoires et qui imaginaient le futur. L'intérêt du steampunk, je trouve, justement, c'est que, en fait, ces auteurs qui, fin 19e, début 20e, étaient un petit peu timorés sur leurs idées, les auteurs actuels, justement, en écrivant ces histoires rétro-futuristes, permettent d'aller beaucoup plus loin. Déjà, donc, au niveau de littérature, il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin que ce que faisaient ces auteurs-là. Et on le retrouve également dans l'esthétique aussi, dans tout ce qui est artiste, parce qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs début 20e, qui situait un petit peu ces univers un petit peu rétro-futuristes, où on voyait des machineries gigantesques, je pense par exemple par Lilanos, où on voyait des personnages habillés à l'époque en haut de forme ou en robe, entourés de machines gigantesques. Et je pense que le steampunk, ça peut être aussi le moyen à tout un public, où je veux bien espérer, puisque c'est vrai que quand on en discute, on n'a pas l'impression que le jeune public lise, mais de faire découvrir tout un pan de cette littérature. Et on le retrouve d'ailleurs dans certains romans, puisqu'on fait, c'est un vivier immense, on puise là-dedans, on va chercher des héros, des savants fous, et donc on renouvelle le genre, on le réactualise, et c'est vrai qu'en cela, je pense que le steampunk peut refaire découvrir tout un pan de cette littérature également.
Il y a Robida, si je peux
le dire. Oui, Robida, bien sûr. Mais tous ces auteurs dont tu parles, ne font que remplacer le vide de l'époque.
Bien sûr.
Si à l'époque la production s'était tournée vers ce domaine-là, vers l'anticipation,
ce que tu disais,
elle aurait fabriqué toutes ces histoires. Mais ça n'a pas été le cas. Donc vous ne faites que combler ce vide.
C'est pour ça que le genre ne peut pas mourir. On le disait moribond à une époque, mais c'est vrai que, et plus particulièrement en France, où je pense qu'il y a actuellement, il y a un renouveau, il y a une énergie, tant sur le plan littéraire que graphique.
Mais par contre, les auteurs d'époque ne sont pas oubliés, parce que par exemple, Serge Lehmann dans La Brigade Chimérique,
où
l'homme truquier reprend du Maurice Renard, reprend du Jean de La Hire.
On mélange les personnages fictifs avec les vrais personnages, même la série Murdoch à la télé, on trouve aussi.
Dans la série Murdoch, il y avait au moins un épisode par saison de steampunk, effectivement, avec des machines volantes ou des machines.
On rencontre Conan Doyle,
Nikola Tesla dans le premier ou le deuxième, je crois. Donc, par exemple, les Italiens dans la série Martin Mystère, ils avaient fait un spin-off avec Docteur Mystère qui était inspiré de Paul Divois, qui était un des grands rivaux de Jules Verne à l'époque. Robida aussi a été récupéré certaines fois. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu une petite BD qui s'appelle Le Futuriste. Et Le Futuriste récupère notamment des cas, enfin, réinterprète des cases de Robida. Donc, quand même, les auteurs de l'époque ne sont pas oubliés, mais ils sont réinterprétés.
Je pense aussi qu'ils étaient bien renseignés, parce que j'ai un livre à la maison sur les inventions victoriennes. Donc, il y a des choses qui ont été réalisées, puis d'autres pas. Et dedans, on trouve des choses qui pourraient être dans la littérature, qui le sont certainement dans la littérature steampunk, et qui n'ont pas été développées. Donc voilà, c'est sous forme de gravure. Je pense qu'il y a aussi le médium de l'époque, la photo peut-être, la gravure, et peu de peinture. Alors après, ça dépend des pays. Je sais que les Américains, au niveau peinture, ils sont très proches de leur temps. Quand on voit des peintures de 1920, il y a encore des Indiens, il y a des choses comme ça. Enfin, c'est... Alors que chez nous, on avait du classique. Vous sortez du religieux presque. Enfin, donc, voilà. Après, vous parliez tout à l'heure des moyens d'expression, mais au niveau de la peinture, on a peu de choses finalement de l'époque en peinture. Enfin, on n'a pas de développement steampunk, je veux dire, voilà, on a des villes peintes à l'huile, mais on n'a pas de ballons qui flottent, des choses comme ça.
Xavier, aussi une chose dont on a parlé, vu qu'on est dans une période où on célèbre les valeurs françaises. Il faut dire que même si le steampunk a été inventé par les Américains dans les années 70-80, la France s'est relativement rapidement repris un peu ce mouvement-là. D'ailleurs, je me suis fait une petite liste chronologique et on s'aperçoit qu'entre 97 et 2004, il y a toute une génération de jeunes auteurs, y compris des barbus d'ailleurs, qui a réinventé le steampunk à la française, soit en utilisant le patrimoine français culturel.
Comme du tout.
Donc soit le patrimoine purement hystérique comme Johan Elliott, soit des héros maintenant comme Feleman, mais ça c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus récent. Donc il y a eu toute une génération d'auteurs, de jeunes auteurs, comme donc Xavier Mauméjean, comme David Calvo, comme Mathieu Gaborit, comme Johan Elliott, comme Merle Joubert, qui ont quasiment débuté leur carrière d'auteur à cette époque-là, et qui ont apporté un souffle nouveau et une vision tout à fait française, non seulement en réinterprétant donc le patrimoine français, mais donc c'était des années très heureuses d'inventivité et elles ont créé donc tout un steampunk français qui perdure encore maintenant, sauf que maintenant c'est plutôt des auteurs pour la jeunesse qui l'ont repris, donc comme Tamayon, Marc Castel et autres. Mais depuis 97, ça n'a pas arrêté. On a vraiment un steampunk purement français, donc qui serait approprié par exemple aussi la Belle Époque avec donc Pierre Pével qui réécrit le Paris de l'époque. Ou Raphaël Albert aussi, qui réintroduit des elfes, des fées, dans un Paris de la Belle Époque. On a vraiment un vrai steampunk à la française, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas toujours parler, effectivement, du steampunk des comics et de littérature américaine. Mais c'est vrai aussi pour d'autres pays. Un jour, en Italie, il y a des comics italiens qui sont steampunk. En Allemagne, il y en a aussi, il y en a un peu partout. Mais je crois que la France est vraiment une des places fortes de steampunk dans le monde.
Et on a du mal à s'en détacher parce que, une petite anecdote personnelle, là, j'ai sorti un roman qui n'a rien de steampunk, qui s'appelle Kafka à Paris, qui se passe dans le Paris 1900. Et à un moment, je décris les sous-sols du Bon Marché. Et je n'ai pas pu résister, comme il a fallu que je fasse avec du cuivre, des machineries et tout ça. Parce qu'il y a le pur plaisir, pour, même en écriture, de l'esthétique visuelle steampunk. Enfin, tout ça pour dire donc que c'est un genre qui a l'air bien parti. C'est vrai que c'était un genre mineur, hein, il y a encore deux décennies. C'était, on dit que c'était un sous-genre, ceci, cela, etc. Et comme l'a dit Marc Dantry, il est en fait en train de se nourrir de la fantaisie et de tous les genres qu'il peut absorber. Donc on finira, sauf à jour, pour dire que pour quelque chose qui vient du passé et qu'on déclarait déjà passé, ben il semblerait qu'il soit dans le présent doté d'un bel avenir. Voilà. Merci beaucoup et merci à messieurs.